La confiance en soi, la sûreté dans l'action, comme nous l'avons dit, sont les traits qui distinguent les bonnes œuvres de la chair. Mais vous vous souvenez, il est impossible à la chair de s'appuyer sur Dieu. Elle est trop impatiente et elle n'accepte aucun délai. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une attente, d'une attitude d'attente devant Dieu et de dépendance du Saint-Esprit est indubitablement de la chair. Chaque fois qu'un cœur se refuse à mettre en Dieu toute sa confiance, la chair déploie son activité. Les choses ainsi accomplies ne sont pas nécessairement mauvaises ou inopportunes. Vous vous souvenez, nous en avons parlé. En fait, elles peuvent être bonnes, empreintes de piété, mais si elles ne sont pas entreprises dans un esprit de complète dépendance du Saint-Esprit, alors c'est partout la chair qui en est la source. Donc si un croyant a assez de confiance en lui-même pour oser compléter la tâche du Saint-Esprit dans la chair, dans l'énergie de la chair, eh bien il ne parviendra jamais à la pleine maturité spirituelle à laquelle il est appelé et que Dieu désire pour lui. Au contraire, il s'en ira à la dérive jusqu'à ce que les péchés qu'il avait naguère surmontés reprennent le dessus dans sa vie. Et c'est ce que nous voyons constamment dans l'accompagnement du ministère. Et ça, c'est une tristesse très grande. Ne soyez pas surpris de ce que je vous dis. C'est une vérité spirituelle élémentaire que toujours et partout, lorsque la chair veut servir Dieu, là, la puissance du péché est affermie. Regardez un exemple avec les pharisiens dans le Nouveau Testament. Pourquoi ces pharisiens orgueilleux devinrent-ils les esclaves du péché? Est-ce que ce n'est pas à cause de leur propre justice qui les incitait à servir Dieu avec un zèle exagéré? Réfléchissez encore, quelle raison l'apôtre Paul avait-il de réprimander les Gadates? Et pourquoi voyait-on en eux les actions de la chair? Est-ce que ce n'était pas parce qu'ils simplement ils cherchaient à établir leur propre justice et à perfectionner par la chair ce que le Saint-Esprit avait déjà commencé? Et ça, c'est le risque que les jeunes croyants courent et interrompent la mise à mort de la puissance de la chair en ne reconnaissant plus l'œuvre de la croix, ce qu'elle a accompli du côté pécheur de la chair. Voyez-vous, c'est trop souvent une très grande maladresse commise par les chrétiens, c'est de ne pas prendre pour consolider la victoire qu'ils viennent de remporter dans leur vie. Eh bien, c'est de ne pas prendre la même attitude qu'ils avaient prise pour la remporter, mais d'essayer de maintenir par leurs bonnes œuvres et leur détermination, cette victoire qu'ils n'ont remportée au départ que par la foi. Nous courons tous ce risque. Nous courons tous ce risque si nous n'avons pas mesuré que la chair mène à la mort, que les actions de la chair mènent à la mort. C'est pour ça que Dieu place toujours devant nous un choix, non pas entre le bien et le mal, mais un choix entre la mort et la vie. Parce que la chair peut faire des choses bien, bonnes. Elle en est capable, jusqu'à un certain point. Mais elle en est capable, et cela nous trompe. Ça peut réussir un temps, Mais en fait, quand nous fonctionnons selon la chair, dans l'énergie de notre chair, dans la vie naturelle qui nous habite, parce que nous sommes chair, eh bien, nous allons vite constater que nous revenons à nos anciens péchés. Ils ont peut-être changé de forme, mais pas de nature. Alors, ces chrétiens-là, nous tombons dans le découragement en supposant qu'en fait, il n'y a pas de possibilité de triompher. C'est impossible. Nous devons donc continuer à mener une vie misérable jusqu'à la fin. Et cela, c'est un mensonge qui vient directement de l'enfer. Alors, soit c'est le découragement, soit c'est la vie double, parce que ces chrétiens vont essayer de camoufler leurs péchés en évitant de les confesser de manière claire et nette, ce qui les amènerait obligatoirement à la repentance et donc à la libération. Les croyants, les chrétiens, nous tous, nous devons maintenir notre chair dans une attitude de crucifixion, c'est-à-dire de mort. Parce que dans ce cas-là, Satan n'a aucune chance de réussir. La chair, c'est l'atelier de Satan. Si l'intellect est le terrain de jeu de Satan, la chair, c'est son atelier. Si la chair est vraiment sous la puissance de la mort du Seigneur Jésus dans sa totalité, pas seulement en partie, Satan n'aura aucun terrain à utiliser. Et Satan est très bien informé, il a 6000 ans d'expérience avec l'homme, et il sait très bien que si notre bon côté de la chair, c'est-à-dire ce qui nous fait faire de bonnes choses pour Dieu, mais avec une mauvaise source, eh bien si ce bon côté de la chair demeure intact, eh bien la chair conservera sa vitalité et Satan pourra continuer à travailler dans l'ombre. Il aura une base à sa disposition, d'où il pourra opérer pour récupérer en quelque sorte le côté de la chair qu'il a perdu. Si je n'ai pas complètement renié ma vie propre devant Dieu, je ne peux pas la renier devant les hommes. Et je serai incapable de surmonter ma haine, ma colère, mes emportements ou mon égoïsme. Je vais répéter cela, parce que là aussi nous sommes tous concernés. Si je n'ai pas encore renié complètement ma vie propre, ma vie naturelle, la vie de ma chair devant Dieu, ça se fait dans le secret de notre chambre, eh bien je ne peux pas la renier devant les hommes. Je serai incapable de surmonter ma haine, mes emportements ou mon égoïsme. Et nous voyons que les croyants de Galatie, les Galates, en venaient à se disputer, à se mordre et à se dévorer les uns les autres. Galates 5, 15. Et nous devons reconnaître que c'est ce que nous voyons trop souvent dans les relations humaines entre personnes qui professent être chrétiennes. Que faisaient les Galates? Ils essayaient de perfectionner par la chair ce qui avait été entrepris par le Saint-Esprit, car ils désiraient se rendre agréables selon la chair, afin de pouvoir se glorifier dans la chair de leurs frères. Chapitre 6 des Galates, versets 12 et 13. Ils ne se rendaient pas compte, et nous non plus, qu'aussi longtemps qu'ils voudraient servir Dieu avec leur propre force, selon leurs propres idées, eh bien, ils serviraient certainement le péché dans la chair. Nous faisons de même. Aussi longtemps que nous voulons servir Dieu avec nos propres forces et selon nos propres idées, nous servirons certainement le péché dans la chair. Parce que si l'on n'en parvient pas à empêcher la chair de faire le bien, eh bien, on ne peut pas l'empêcher de faire le mal. Or, si c'est dans notre chair que nous faisons les choses bonnes, les choses religieuses, les choses pour le Seigneur, eh bien, forcément, le péché est attaché à nous et nous ne pourrons pas empêcher le péché de se manifester dans notre chair, dans notre vie naturelle. Alors, il ne faut pas en déduire que le meilleur moyen de s'abstenir de péché n'est pas de faire le bien par soi-même. Le meilleur moyen de s'abstenir du péché, c'est de mourir. Un mort ne peut pas pécher. Il est mort, donc il ne peut pas pécher. Et la mort avec Christ nous rend libres du péché. Nous sommes très inconscients de la corruption de notre chair, de notre vie naturelle. Nous sommes inconscients de notre folie. Parce que nous aspirons à nous servir de choses qui ne peuvent pas faire les œuvres de Dieu. Ils ne peuvent pas. La chair est flétrie par la corruption. Et elle se vante de faire le bien. Elle se vante de faire le bien. Alors qu'en fait, elle se livre à la convoitise de satisfaire sa chair. Jésus l'a dit en Jean 6, chapitre 6, verset 63, « La chair ne sert de rien, que ce soit pour les bonnes choses ou que ce soit pour les mauvaises choses. » Alors, pour les mauvaises choses, on est bien d'accord, mais pour les bonnes choses, bien, on pourrait peut-être un peu concilier. Non, c'est impossible de concilier, parce que nous devons voir les choses comme Dieu les voit, et Dieu voit la chair comme pourriture, comme corruption. La chair, c'est-à-dire la vie naturelle. Dieu est tellement inflexible à l'égard de la chair et de la moindre de ses activités. Mais le croyant, lui, il ne rejette que les mauvais côtés de la chair. Il ne rejette pas catégoriquement la chair dans son ensemble. Il continue à faire et nous en faisons tous l'expérience. Vous ne pouvez pas dire que vous ne faites pas cette expérience-là. Moi, je la fais, vous la faites. Eh bien, nous rejetons le mauvais côté de la chair, mais nous continuons à faire beaucoup de choses dans la chair parce que nous n'avons pas rejeté les, entre guillemets, bons côtés de la chair. C'est une séduction. Et alors, à cause de cette séduction, eh bien, l'Esprit de Dieu nous conduit souvent dans des sentiers très déshonorant, très humiliant, pour nous apprendre à nous connaître et que nous arrivions enfin à avoir cette même appréciation que Dieu en ce qui concerne la chair. Alors Dieu permet les faiblesses, les échecs et même le péché dont nous avons à nous repentir après, souvent avec larmes et amertume et en payant souvent les conséquences. Dieu permet cela pour que nous puissions comprendre qu'il n'y a rien de bon dans la chair. Regardez l'apôtre Pierre, quand il a renié le Seigneur, il a découvert qu'il n'y avait rien de bon en lui. Regardez l'apôtre Paul, quand il acceptait d'être à la lapidation d'Étienne, quand il mettait les hommes et les femmes qui suivaient le Seigneur en prison, il a accepté cela pour découvrir après. Dieu a accepté cela pour faire découvrir à Paul après ce qu'il était. Et c'est pour ça que Paul a pu écrire ce qu'il a écrit concernant la chair. Il avait bonne raison de se glorifier dans la chair, plus que beaucoup d'autres. Mais il tient tout cela comme des ordures devant Dieu. Nous avons besoin de faire ces expériences et c'est en général ce qui arrive à celui qui se croit en progrès spirituellement mais qui continue à vivre à partir d'une mauvaise source. Mais le Seigneur l'éprouve pour qu'il apprenne à se connaître lui-même. Et c'est souvent comme cela d'ailleurs que le Seigneur va révéler sa sainteté aux croyants pour qu'ils soient contraints de juger sa chair, sa vie naturelle comme impure. Et c'est une leçon très difficile, c'est une leçon très douloureuse. Et c'est souvent après bien des années qu'on en vient à réaliser à quel point la chair est indigne de notre confiance. Même dans son meilleur effort, il y a de l'impureté. Et c'est pour cela que le Seigneur abandonne le croyant à l'expérience profonde de Romains 7. Regardez, relisez-la, le verset 18. Jusqu'à ce qu'il soit prêt à confesser comme Paul, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire en ma chair. Nous devons tous arriver à cette constatation-là. Pas seulement le dire, mais le constater et le vivre. Et une fois que nous avons constaté qu'effectivement il n'y a rien de bon en moi, eh bien c'est ce jugement de soi-même qui doit continuer. Parce que si nous cessons de traiter la chair comme absolument détestable, nous risquons d'avoir une attitude de suffisance et Dieu est obligé de nous faire passer de nouveau par le feu pour consumer tout ce qui est tellement mauvais. Dieu est un feu dévorant. Pas seulement pour les non-croyants, mais d'abord pour ceux de sa maison, pour les croyants. Tout ce qui ne vient pas de Dieu doit disparaître, doit brûler. Parce que la conviction de péché, c'est le Saint-Esprit qui va nous la donner. C'est pas seulement pour les non-croyants, la conviction de péché, c'est pour les croyants. C'est une nécessité pour le Saint-Esprit de nous convaincre de nos péchés, pour que notre chair puisse être rendue incapable de régner. Souvent, nous ne voyons pas notre péché. Péché voulant dire manquer la cible de Dieu. David disait « Montre-moi mon péché caché ». Ce n'est pas le péché que l'on fait volontairement et que l'on cache pour que personne ne le voie. Non, c'est le péché qui est caché à notre conscience, dont nous n'avons pas conscience. Nous n'avons pas conscience que telle ou telle chose est péché pour Dieu. Alors Dieu nous le révèle. Dieu nous le révèle. Paul a été celui qui a peut-être le mieux compris cette expérience de Romains 7. Dieu lui a ouvert les yeux pour qu'il voie cette expérience, qu'il la fasse, et qu'il voit par l'expérience qu'il n'y a rien de bon dans sa chair. La justice propre dont il se glorifiait dans le passé, c'était le pharisien élevé au pied de Gamaliel, hébreu parmi les hébreux, benjaminite, etc., etc. Eh bien, il sait que c'est que de la bellure, il n'en veut plus rien. Il ne peut pas mettre sa confiance dans la chair. Regardez Philippiens, chapitre 3, versets 3 et 4. « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis bien davantage. » Et bien, malgré toutes ces bonnes raisons qu'il pouvait avoir de se confier dans la chair, il réalise que Dieu la considère comme horreur. Comme une horreur. Elle est absolument indigne de confiance et donc il est exclu pour Paul de se fier à elle. Alors, si un croyant aspire à la maturité spirituelle, et quel est le croyant, le véritable croyant qui n'y aspire pas, nous désirons vivre une vie de plénitude, d'authenticité avec le Seigneur, eh bien, nous sommes dans cette obligation de conserver pour toujours, pour chaque instant de notre vie et tout au long de notre vie sur cette terre, cette même attitude que l'apôtre Paul a prise et maintenue tout au long de sa marche spirituelle. Le chrétien ne doit pas nourrir la moindre confiance en lui-même, la moindre satisfaction de lui-même, la moindre joie de ce qu'il est, comme s'il pouvait se fier à sa chair. Il nous a dit de nous glorifier en Dieu. Nous pouvons nous réjouir du chemin que le Seigneur nous a fait parcourir depuis l'année passée, depuis la semaine passée, depuis hier. Nous voyons, si nous marchons avec le Seigneur, nous constatons les progrès qu'il nous fait faire jour après jour. Comme un chrétien doit être délivré par la croix du péché de la chair, il doit être délivré maintenant par la même croix de la justice de la chair.